Le peintre de chats. Il y a très longtemps, dans un village des montagnes du Japon, vivait un fermier, sa femme et ses nombreux fils et filles. La famille était si pauvre que les enfants devaient travailler la terre dès leur plus jeune âge. Mais le dernier fils, appelé Camille, était trop petit et trop faible pour travailler. Comme il était intelligent, ses parents décidèrent d'en faire un moine. Ils le conduisirent donc un jour au temple. Camille apprit vite la science des moines, mais il avait un défaut. Il préférait peindre des chats partout plutôt que d'étudier. Il en peignait même là où il ne fallait pas. Par exemple, sur les marges des livres saints, sur les paravents, sur les murs et les piliers du temple. Et bien que les moines ne lui défendent, Camille ne pouvait s'en empêcher car il était né artiste. Camille vécut au temple et y étudia pendant 7 longues années, jusqu'au jour où le supérieur le fit venir et lui dit « Nous ne pouvons pas continuer à t'instruire, Camille. Jamais tu ne feras un bon moine, mais tu deviendras peut-être un grand artiste. Quitte le temple maintenant. Mais avant de partir, écoute ce que j'ai à te dire et retiens-le. La nuit, fuis les vastes lieux, choisis les petits. » Camille ne comprit pas ce que le supérieur voulait dire. Il était bien perplexe lorsqu'il fit son baluchon avec ses maigres biens et quitta le temple. Il ne savait vraiment où aller ni que faire, et il ne pouvait revenir chez ses parents, trop pauvres pour le nourrir. Alors il se souvint du temple de Nikoto, à une dizaine de lieues de là. Peut-être que les moines de ce temple voudraient l'accueillir. Il prit la route qui y menait. Personne n'indiqua à Camille que le temple avait été fermé. Des mois plus tôt, un énorme rat y avait fait irruption au crépuscule et toute la communauté avait fui, terrifiée. Depuis cette nuit d'épouvante, une centaine de courageux guerriers avaient voulu chasser le rat géant, mais aucun n'en était revenu. À l'heure où Camille arriva à Nikoto, la nuit était tombée et tout était silencieux. À l'extérieur du temple, une rangée de lanternes dorées brûlait. Les gens disaient que c'étaient les lampes des démons allumées par le rat maléfique pour attirer les voyageurs à l'intérieur du temple. Ignorant tout cela, Camille monta les marches du temple et entra. Il ne rencontra personne à l'intérieur, mais il était si fatigué qu'il s'assit sur le sol en attendant que quelqu'un vienne. Camille remarqua que la galerie était recouverte d'une épaisse couche de poussière et que des toiles d'araignée pendaient des piliers. Si les moines refusaient de le prendre comme novice, il se ferait embaucher pour le ménage. L'idée lui plut et il se sentit tout heureux quand il découvrit quelques grands paravents blancs, une boîte remplie de pinceaux et un petit bol d'encre. Camille resta assis des heures, peignant des chats sur les paravents du temple. Peut-être que les moines le garderaient pour le remercier. Puis, juste avant minuit, il s'allongea sur le sol pour se reposer. Les yeux fermés, déjà presque endormi, il se rappela les paroles du vieux moine. « La nuit, fuis les vastes lieux, choisis les petits. » Dans un sursaut, il se réveilla tout à fait. Le temple était vaste et silencieux, et la peur l'envahit. Il se leva et chercha une pièce plus petite pour y dormir. À l'autre bout de la galerie, il trouva une petite pièce vide avec une porte à glissière. Camille y entra, se pelotonna dans un coin comme un chat et s'endormit d'un sommeil léger. Une heure avant l'aube, une immense ombre noire apparut sur le mur du temple. et toutes les lampes dorées s'éteignirent subitement. Un instant plus tard, d'effroyables sifflements et des cris stridents l'éveillèrent. Il se tapit dans son coin, sans même oser jeter un coup d'œil par la porte à glissière. À peine osait-il respirer. Les hurlements affreux s'amplifièrent encore et encore, et il lui sembla que le temple entier frémissait de terreur. Enfin, le bruit cessa. Pendant le long silence qui suivit, Camille resta absolument immobile dans son refuge. Il y resta jusqu'à ce que les premiers rayons du soleil éclairent la petite pièce. Enfin, Camille se mit debout et se glissa sans faire aucun bruit hors de la pièce. Et là, dans le temple, devant les paravents, le monstrueux rat maléfique, plus gros, plus terrifiant qu'un rhinocéros, gisait mort dans une mare de sang. Camille fut si stupéfait qu'il ne remarqua d'abord pas que les chats qu'il avait peints sur les paravents du temple avaient l'air de se lécher les babines. Ces chats avaient tué le rat maudit. Et le conseil du vieux moine lui avait sauvé la vie.
Loutra, la loutre. Ce matin-là, Loutra, la petite loutre, s'éveilla de très bonne heure. C'était pour elle un grand jour. Elle allait prendre son premier bain. Depuis longtemps déjà, Loutra attendait avec impatience de suivre sa mère lorsqu'elle plongeait dans la rivière. Depuis sa naissance, près de 3 mois plus tôt, Loutra vivait dans son terrier. Il était bâti entre les racines d'un arbre accroché à la rive pentue du fleuve. Nouveau-née, minuscule, Loutra ne voyait pas encore et restait pelotonnée dans son nid de brindilles et de roseaux. Mais dès qu'elle avait su marcher, elle avait voulu explorer le monde. Elle découvrit bientôt qu'il y avait plus d'une sortie au terrier. Elle ne pouvait pas suivre sa mère par la sortie sous l'eau, mais Loutra pouvait grimper jusqu'à un trou de l'arbre. De là, elle montait à toute vitesse jusqu'aux branches ou descendait sur le sol. Elle y trouvait des cailloux, des plumes et des os pour jouer. Une fois, elle avait trouvé une écrevisse entre des pierres au bord de la rivière. Elle s'était amusée avec, puis elle avait essayé d'écraser la carapace entre ses dents pointues, comme elle avait vu sa mère faire. Mais ses mâchoires n'étaient pas encore assez puissantes. Et vexée, elle l'avait abandonnée. Mais aujourd'hui, aucune proie n'intéressait Loutra. Elle voulait plonger dans l'eau. Elle espérait qu'elle n'aurait pas à attendre longtemps que sa mère revienne de son expédition de pêche matinale. De plus en plus impatiente, Loutra se tint debout sur ses pattes postérieures et jeta un coup d'œil par le trou dans l'arbre. Tout d'abord, elle ne vit rien d'intéressant. Mais il y eut soudain un éclair, orange et bleu. C'était un martin pêcheur qui passait avec un poisson frétillant dans son bec. L'instant d'après, maman loutre remonta à la surface, jeta un regard circulaire, aspira une bouffée d'air et plongea profondément dans la rivière. Quelques bulles d'air seulement indiquèrent l'endroit où elle avait disparu. Loutra était incapable d'attendre une seconde de plus, couinant d'excitation. Elle sortit et courut sur la rive. Elle pataugea dans les eaux plus profondes en retournant les pierres à coups de patte. Soudain, il lui vint une idée. Elle allait nager à la rencontre de sa mère. Elle ne savait pas encore nager sous l'eau, mais elle était sûre de pouvoir nager en surface. Loutra avança jusqu'à perdre pied. Et alors, ses quatre pattes éclaboussant en tous sens, elle commença à nager. C'était plus difficile qu'elle ne pensait. Il lui semblait qu'elle devait lutter contre une force qui l'écartait de sa mère et l'éloignait de sa maison. Quels que soient ses efforts, elle ne pouvait lui résister. Oh, elle fut bientôt épuisée et épouvantée. Que lui arrivait-il? Pourrait-elle retrouver la sécurité de son terrier? Où était sa maman? Loutra sentit qu'elle coulait et poussa un cri de terreur. Heureusement, sa mère émergea juste à côté d'elle. « Ne bouge pas et tout ira bien, » dit-elle fermement. Puis elle prit Loutra par la peau du cou et nagea vers la rive avec elle. Arrivée sur la terre ferme, Loutra se mit à frissonner de frayeur. « Tu as été une vilaine petite loutre et tu as eu très peur, » lui dit sa maman. « Maintenant, oublie tout cela et fais ce que font toutes les loutres après le bain. Roule-toi dans l'herbe pour te sécher. » Loutra obéit en pensant que bientôt elle nagerait suffisamment bien pour suivre sa mère dans toutes ses expéditions. Quand Loutra fut bien sèche, sa mère lui dit « Je vais aller pêcher un poisson, mais je veux d'abord être sûre que tu ne prépares pas une autre bêtise. Retourne à la maison et reste-y bien sagement jusqu'à mon retour. » Loutra était trop fatiguée pour discuter. Elle alla à petits pas jusqu'au terrier et ferma les yeux avec satisfaction. Elle dormait depuis un bon moment quand elle fut réveillée par un grognement. Jamais elle n'avait entendu un son pareil. Elle s'assit pour regarder par le trou de l'arbre. Mais elle ne vit qu'un couple de cygnes nageant paresseusement au bord de l'eau. « Je sais bien que les cygnes ne poussent pas de tels cris, » se dit-elle. Et elle se glissa vers les broussailles du bord de l'eau pour mieux voir. Elle entendit de nouveau ce grognement étrange, tout près. Elle leva la tête et, horrifiée, elle découvrit une face noire et brillante avec deux yeux, un nez, une bouche. Et de chaque côté de cette tête, deux étranges rabats. Oh, c'était un chien. Il poussa son nez en avant et grogna encore. Loutra voulut reculer, mais elle se prit les pattes dans les broussailles et ne put bouger. Soudain, il y eut un couinement bruyant qui devint aigu et retentit comme un cri de rage. Inquiet, le chien se retourna pour découvrir la courageuse maman loutre. Elle était bien plus petite que le chien, mais très en colère. Elle sauta sur ses pattes postérieures, montra les dents et se jeta sur le chien. Celui-ci hurla de surprise et de douleur quand les dents de la loutre le mordirent. Puis il entendit l'appel de son maître et courut vite le rejoindre. La mère de Loutra, sachant qu'elle avait eu de la chance, respira de soulagement. Elle savait aussi que le chien pourrait revenir et qu'il ne serait peut-être pas aussi facile de l'effrayer la prochaine fois. « Impossible de rester ici, » dit-elle à Loutra. « Nous devons partir à la recherche d'un autre terrier. » Le soleil se couchait lorsque Loutra et sa mère partirent en quête d'une nouvelle maison. Loutra, essaie de faire un peu moins de bêtises, lui dit sa maman en chemin. Sinon, nous serons obligés de déménager bien trop souvent.